Chers frères et sœurs, je vais commencer par un mot qui concernera enfants et adultes, et puis après je terminerai pour un mot pour plus particulièrement peut-être les adultes. Au début de la première lecture, nous avons entendu cela. En ces jours-là, il y avait une famine dans le pays. Eh bien justement, cette famine, elle est vraie, elle est encore actuelle, et nous avons à la faire nôtre, nous avons à avoir faim. Pendant tout un mois, là, nous avons quitté l'évangile de Saint-Marc, que normalement dans l'année B, le dimanche, nous suivons, pour écouter Saint-Jean dans son chapitre 6, qui est le discours du pain de vie, mais qui commence par cette annonce d'abord de la multiplication des pains. Jésus a multiplié les pains. Il est capable de nourrir les foules en grand nombre. Et du coup, il va être capable de nous nourrir nous-mêmes si nous avons faim. Alors chacun d'entre nous, nous avons d'abord à nous poser et à essayer de se vivre pendant ce mois-là qui va venir, où nous allons entendre ce discours de Jésus, où il va nous dire qu'il est lui, le pain qui donne la vie qui ne finit pas, la vie en abondance. Eh bien, nous allons devoir avoir faim. Si nous n'avons pas faim, si nous vivons simplement un petit peu d'une façon tranquille toutes ces semaines, eh bien, nous allons passer à côté de ce que Jésus va nous dire. Mais si nous avons faim, les enfants, les adultes, eh bien, nous allons pouvoir accueillir vraiment et d'abord la parole de Dieu comme une nourriture qui donne voilà, sens, qui forme notre cœur. Et puis nous accueillerons aussi l'Eucharistie comme ce pain dans lequel Jésus se rend présent et par lequel aujourd'hui il nous nourrit. Alors chacun d'entre nous, tout à l'heure, dans le temps de silence, je vous invite à vous dire, voilà, qui est votre faim? De quoi avez-vous faim? Est-ce que vous avez faim de Dieu? Et qu'est-ce que Dieu va pouvoir combler dans votre vie comme un manque? Voilà, chacun d'entre nous, on peut vraiment se poser cette question-là. De quoi j'ai faim? Ainsi, nous entretiendrons notre faim et en même temps, nous nous laisserons rassasier. Il y aura cette balance sans cesse. À la fois, nous aurons de plus en plus faim et en même temps, nous aurons aussi de plus en plus de joie de goûter cette nourriture que Dieu veut nous donner. Et nous éprouverons combien, oui, Dieu est présent dans notre vie grâce à cela. Alors, c'est Jésus qui va nous nourrir. Jésus va nous nourrir d'une façon un peu mystérieuse, chacun d'une façon personnelle. Et nous sommes tous rassemblés pour pouvoir entendre la même parole, pour recevoir ensemble des grâces, mais la grâce sera personnelle. Et donc c'est à chacun personnellement que Dieu va donner quelque chose. Et voilà, votre voisin ne recevra pas exactement la même chose que vous, et pourtant tous nous serons comblés. Ce lien entre Jésus, cela passe aussi par le regard. Nous pouvons peut-être réfléchir, voilà, quel est notre regard que nous posons sur Jésus. Les yeux sur toi, tous ils espèrent, disait le psaume. Et en même temps, Jésus, c'est en levant les yeux sur la foule qu'il voit leurs besoins, qu'il voit leur faim et qu'il pense à les rassasier. Il y a cet échange de regards entre Jésus et nous. Nous avons à lever les yeux vers Jésus et du coup à espérer, nous dit le psaume, et en espérant, en levant les yeux vers Jésus, eh bien, nous accueillons après son propre regard personnel posé sur chacun d'entre nous, comme tant et tant de personnes dans l'Évangile ont pu en faire déjà l'expérience. Voilà, Jésus va nous nourrir aussi après en ouvrant sa main au temps voulu. Tu donnes la nourriture au temps voulu. Parfois, nos temps de faim peuvent durer longtemps. Et du coup, les enfants, des fois, vous vous dites, bah là, je ne vois pas où est Dieu dans ma vie, parce que vous trouvez que eh bien, vous avez faim pendant longtemps et que vous ne voyez pas comment Dieu vous nourrit. Mais le psaume, il nous dit, voilà, cette expérience du peuple hébreu, c'est que Dieu donne toujours la nourriture au temps voulu. Au temps où il convient, Dieu est là, il surgit et il nous comble de ses bienfaits. Et du coup, nous disons, oui, vraiment, Dieu était là, présent dans ma vie et Dieu m'a comblé. Voilà, il faut savoir avoir du coup de la patience, parfois dans certains moments où la faim va durer, où le désir va grandir et ainsi du coup après accueillir au temps voulu cette nourriture que Dieu veut nous donner. Accepter que Dieu ne nous donne pas immédiatement, mais accepter plutôt que Dieu nous donne quand il convient pour nous, parce qu'il sait quand est-ce que cela convient. De même que pour les enfants, vos parents vous disent, eh bien, c'est à telle heure que nous mangerons et ça ne sera pas avant. Et puis avant, en même temps, ils sont capables aussi de s'ajuster en disant, ah ben là, peut-être qu'il faut en effet que tu prennes un morceau de pain parce que c'est, voilà, il y a besoin pour toi d'un peu plus, quoi. Mais d'avoir ce sens, voilà, cette compréhension que Dieu nous donne ce qu'il nous faut quand il faut à chacun personnellement. Parfois, on pourrait peut-être prendre ce psaume comme bénédicité, justement, pour dire que voilà, la nourriture aussi physique, concrète que nous accueillons, c'est aussi une façon par laquelle Dieu nous rejoint et nous donne cette nourriture au temps voulu. Et en même temps, nous rappeler que la nourriture la plus grande, la plus importante peut-être, c'est cette nourriture intérieure, spirituelle, que Dieu veut nous donner. Voilà, donc les enfants, voilà, ayez faim pendant un mois, là. Je vous invite vraiment à travailler votre faim. Et tous les jours à vous dire, bah, Jésus, pourquoi est-ce que toi tu vas pouvoir me nourrir? Où est-ce que j'ai faim qui fait que toi tu vas pouvoir venir vers moi et me donner la nourriture dont j'ai besoin? Essayez de réfléchir à ça parfois dans la journée, de dire de quoi j'ai faim en ce moment. Et puis comme ça, quand vous viendrez à la messe le dimanche d'après, eh ben, vous entendrez une parole nouvelle et vous direz « Ah oui, ben, je vois que Jésus a promis ça, il a promis ça ». Et petit à petit, vous intégrerez ça aussi dans votre propre vie par rapport à vos fins personnelles. Et voilà, vous aurez ce sens du coup de la présence de Dieu dans votre vie qui vous nourrit vos attentes, et que s'il n'y a pas d'attente, bah Dieu il essaye de vous donner des choses, mais vous ne pouvez pas pareil vous en rendre compte de la même façon. Voilà. Pour les plus grands, je voudrais simplement terminer avec le fait que cette fin devient un moyen d'unité dans l'unique mission de l'Église. D'abord, quand nous sommes saisis par notre fin personnelle, spirituelle, eh bien, nous allons pouvoir aussi être saisis par la fin du monde. Jésus, en levant les yeux, il voit la fin du monde et il dit à ses apôtres, eh bien, on va leur donner à manger. Et là, du coup, il y a Philippe, l'apôtre Saint-Philippe, qui dit, bah là, c'est un peu compliqué quand même, parce qu'il faudrait au moins 200 journées de salaire pour pouvoir donner à manger. Et puis, il y a André. André, c'est souvent celui qui amène d'autres personnes à Jésus. On voit ça dans le début de Saint Jean, ici, dans ce passage. Et puis, c'est aussi lui qui va voir Jésus en disant, il y a des Grecs qui veulent te voir. Et Jésus leur dit, attendez, après le mystère de ma glorification, après ma mort et ma résurrection, eux, ils pourront venir me voir, mais pour le moment, ce n'est pas le moment. Donc André, Saint André a aussi cette capacité à rassembler, savoir un peu conduire les personnes vers Jésus. Et on voit du coup comment est-ce qu'il y a cette unité qui se forme pour eh bien, le désir de Jésus, qui est de combler, rassasier la faim du monde. Ainsi, cela nous permet de dépasser aussi toute tentation de division qu'il pourrait y avoir entre nous, tout regard posé qui est un regard qui peut blesser aussi, toute pensée de jalousie, toute autre pensée. Et nous vivons alors vraiment cette unité du corps qui est formée par le corps eucharistique. Nous formons cette unité du corps où d'abord nous avons conscience que Dieu donne des grâces à chacun et nous nous réjouissons des grâces que chacun peut recevoir. Et puis aussi nous avons conscience que dans la semaine, eh bien, nous allons participer chacun là où nous sommes à cette fête de rassasier le monde. Nous allons être ceux qui allons pouvoir transmettre cette nourriture que Dieu veut donner. Et du coup, nous pourrons prier les uns pour les autres, même si nous ne nous connaissons pas tous, nous prierons les uns pour les autres et nous rendrons grâce à Dieu du fait que chacun va accomplir sa part de mission que Jésus attend pour lui dans le monde. Voilà, ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience et supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix, parce qu'il n'y a qu'un seul corps et qu'un seul esprit. Vraiment, cette beauté aussi de l'Épître aux Éphésiens nous dit cela. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, et bien après cela se vit dans les petites choses et par la conscience de la même mission que nous partageons. Alors vraiment, voilà, prions peut-être maintenant, d'abord les uns pour les autres, en ayant conscience que chacun va dévoiler dans son cœur le mystère de sa faim au Seigneur. Et puis ensuite, prions les uns pour les autres pour que chacun puisse être rassasié au temps où Dieu veuille, au temps où Dieu verra que ce soit bon. Et enfin, prions les uns pour les autres pendant cette semaine particulièrement pour que chacun d'entre nous accomplisse sa part de mission qui lui revient, sa part le fait de savoir conduire à Jésus, de lui présenter la nourriture que les autres peuvent lui donner et de savoir aussi transmettre ensuite cette nourriture aux autres personnes autour de nous. Amen.